fait venir une panthère noire de France jusqu'en Pologne, dans un château abandonné, avec une équipe polonaise de 40 personnes. Enfin, c'était un délire, vraiment, je te jure.
Attends, raconte-moi cette histoire, c'est fou. Bienvenue dans Scop. Aujourd'hui, je suis avec Léo Bijaoui, qui est réalisateur de publicité, de clips et de courts-métrages. Dans cet épisode, on va parler de son parcours, mais on va aussi apprendre comment intégrer le milieu de la publicité, comment utiliser ses angoisses pour trouver des idées de scénario et comment trouver de l'inspiration et rester focalisé sur un seul objectif. Je ne sais pas si tu le sais, mais ça fait un an et un jour que tu as sorti le 12e épisode de Caméflex.
Ah, drôle. Ok, non, je ne savais pas. Le 12e et dernier, du coup.
Yes.
Ok.
T'en es où par rapport à Caméflex ?
Caméflex, c'est le podcast que j'ai animé pendant 6 mois l'an dernier.
Le slogan, c'est « Lumière sur les métiers de l'ombre du cinéma », c'est ça ?
Sur les hommes de l'ombre du cinéma, ouais. C'est ça.
C'est un très bon moyen pour les autodidactes de comprendre un peu comment ça se passe en interne dans le milieu du cinéma, en fait.
Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, j'ai réalisé, quand j'en parle à ma famille et tout, j'essaie d'expliquer mon métier, je me rends compte que c'est quand même assez, assez vaste et que chaque poste, chaque corps de métier, c'est un univers à part entière qui est toujours relié au metteur en scène et au film, mais c'est vraiment hyper, hyper riche la vie de ces gens. Donc, ils ont toujours des anecdotes à raconter et puis c'est quand même des passionnés tous. Donc, ils ont une façon de t'en parler qui est toujours hyper enrichissante, quoi.
C'est quoi les profils qu'on trouve sur Caméflex ?
Ben, t'as un chef-op, un monteur, un superviseur VFX, une étalonneuse, une réalisatrice, un réalisateur, un producteur de clips.
Moi, je t'ai connu parce que je t'ai vu dans la vidéo de Louis, donc ouais, de la chaîne Grain. Et donc, Louis m'avait parlé de Caméflex. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'en fait, toi, tu disais que tu avais été inspiré par Antonin Archer de Nouvelle École.
Ouais.
Et tu vois, après, toi, tu m'as inspiré.
Ouais, c'est
et
cool.
Là, j'ai des potes autour de moi qui me disent « Ah ouais, je crois que je vais commencer à faire un podcast, machin. » Enfin, tu vois.
On est dans un climat où on s'inspire tous mutuellement. Par exemple, Anto, il a voulu se lancer dans le podcast aussi parce qu'il me voyait faire mes projets en freelance et que je m'éclatais à faire ma passion. Et ça lui a donné envie de faire un truc, lui, et il a fait un podcast. Moi, après, j'ai vu faire son podcast et il m'a dit « Mais mec, je rencontre des gens trop intéressants toute la journée auxquels j'aurais pas eu accès sans podcast. » Et ça a fait tilt. Je me suis dit « Attends, mais moi, je veux faire du cinéma, je veux faire de la fiction. » Bah tiens, je vais faire un podcast pour pouvoir rencontrer des gens dont j'aime le boulot. On s'est mutuellement inspirés. Et puis après, on a fait un court-métrage ensemble. Si tu rencontres quelqu'un pour qui tu as de l'estime dans de sa façon de réfléchir ou d'entreprendre, ça peut durer assez longtemps, tu vois.
Donc, tu travailles pas mal avec Antonin, mais tu travailles aussi avec Maxime Baudin, c'est ça ?
Ouais, j'ai travaillé avec Max pendant 2 ans. On travaille plus ensemble.
D'accord.
On s'était mis à faire des pubs et des clips jusqu'au jour où on a fait un clip pour Damso qui s'appelle Amnésie. Et le label nous a rappelé pour faire 2 clips pour son album qui allait sortir. Donc l'album, c'est Ipséité.
On a fait le label, c'est 92i.
Ouais, c'est ça. On bossait avec eux. Et du coup, ils nous ont dit, voilà, pour Ipséité, on voudrait que vous fassiez les deux premiers clips, on les a fait, ils sont pas sortis.
Parce que déjà, Amnésie, il est plus que sur Vimeo, non ?
Alors, Amnésie, il est plus que sur Vimeo, mais ça, c'est parce que la maison de disques ou Damso, ou je ne sais pas quoi, en tout cas, il y a un problème de clearance de droits au niveau du sample. Les droits ont été évidemment clearés, puisque c'est quand même Universal derrière et Capitol, mais le clip n'est pas revenu sur YouTube, je sais pas pourquoi. Mais bon, ça nous concerne pas. Et pour Ipséité, on avait clippé 2, ils sont pas sortis. Pour des raisons de désaccord, enfin les clips ont pas plu quoi concrètement au label. Et donc ils en ont re-shooté un pour Noir is the New Black avec un autre réal. Et pour l'autre morceau, ils ont pas re-shooté de clip pour ce morceau. Et donc du coup, on s'était énormément investi, on avait fait un tournage en Pologne avec une panthère noire. J'avais fait quasiment la prod, parce qu'on n'avait pas de prod, donc j'avais fait venir une panthère noire de France jusqu'en Pologne, dans un château, abandonné, enfin bref, avec une équipe polonaise de 40 personnes, enfin c'était un délire, vraiment, je te jure.
Attends, raconte-moi cette histoire, c'est fou.
Bah c'était l'histoire de, on se lance dans un truc dément, où on vend une idée à un artiste, qui est complètement folle à réaliser tout seul, c'est-à-dire sans production, juste avec une prod exé polonaise, d'ailleurs qui était géniale, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et cette pauvre panthère, on l'a ramenée là, de France pour faire des images dans un château. Et d'ailleurs, je crois que je referai plus de tournage, en tout cas si on me le demande, avec des animaux.
C'est vrai?
Bah pas avec des animaux avec sauvages comme ça, genre elle était malheureuse, tu vois.
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais, vraiment, genre. En fait, de l'extérieur, c'est vachement excitant. T'es avec un animal comme ça, tu te dis putain, c'est trop cool et tout. Mais quand tu vois comment elle est, la panthère, elle est pas bien, quoi. Elle est pas bien, elle tourne en rond, elle devient ouf. Elle est enfermée les trois quarts du temps. Tu la sors juste pour les images, et après, elle est terrorisée. Toi, t'as l'image de la panthère hyper forte et tout, mais en
Ouais.
fait, c'est un animal sauvage que tu trimbales dans des endroits où il devrait pas aller, avec plein de gens. Après, je te dis ça, c'est que les dresseurs qu'on avait, vraiment, ils n'étaient pas pros, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui font très bien leur métier avec des animaux comme ça. Et pour le coup, ceux qu'on avait, nous, n'étaient pas du tout professionnels. Donc du coup, voilà, ça... tu te sens pas très à l'aise, en fait, tu vois, dans une démarche comme ça.
Ouais.
Et donc, dans les trucs d'erreur de jeunesse, c'était de faire un clip avec une panthère alors qu'on tourne en Pologne et que un quart du budget, même plus, c'était le prix de la panthère et de son transport, tu vois. Et qu'une panthère, ça prend trop de temps et que tu perds trop de temps pour faire les autres plans et qu'à la fin, tu fais ton clip, t'as pas assez de plans et que t'as voulu te faire un kiff, mais t'as un peu foutu en l'air le projet, quoi. Donc en soi, les images avec la panthère, elles sont ouf, quoi. Vraiment, elles sont sublimes et tout, mais il manque des choses dans le reste du clip.
Elles appartiennent à qui ces images?
Bah, elles sont au label.
Ok.
Enfin, label, maison de disque, tu vois, dans le détail, à Universal, quoi.
On les verra jamais quoi.
On les verra jamais. Non, ça reste dans les dossiers, quoi.
Je me demande en fait quelle est ton ambition par rapport au milieu du rap parce que j'ai vu que tu avais fait, enfin ton nom est cité dans Le Règlement, la chaîne YouTube Le Règlement, à plusieurs endroits. Je sais pas, tu as fait des photos, tu as filmé, qu'est-ce que
Ouais,
tu as fait?
j'ai co-réalisé la saison 2 du règlement.
Le Règlement, pour ceux qui regardent pas, en fait, c'est une chaîne qui analyse des morceaux de rap et qui
C'est
maintenant a
ça.
une sorte de studio, un espèce de vaisseau spatial dans lequel
Ouais.
les artistes viennent poser
Bah
leur
ça,
freestyle.
on l'a fait construire. La volonté, c'était d'être dans une ambiance spatiale pour la saison 2. Donc j'ai accepté de co-réaliser et j'ai appelé une chef déco avec qui je bosse en pub. Donc la chef déco, elle s'appelle Eva Jules. Elle a un collectif de décorateurs aussi qui s'appelle Décalciné, qui sont hyper bons. Et elle est hyper hyper forte et elle a fait ça sur son temps libre, quoi. C'est un truc, c'est juste énorme ce qu'elle a fait pour le projet.
Et ce vaisseau spatial là, il est où en fait? Il est dans un.
Il est stocké, en fait, parce qu'on a installé ça à l'intérieur d'un studio de son.
Ok.
Studio son qui n'existe plus non plus puisqu'il a été détruit
D'accord.
parce que c'était dans un ancien squat revisité en studio puis la concession a fermé, enfin bref, un bordel. Donc le studio est stocké quelque part, je sais pas où.
T'as rencontré qui comme rappeur du coup?
Ben du coup les 18 là, putain, Esprit Noir, Jazzy Baz,
Gringe.
Gringe, il y avait Lynchiro, c'est une jeune rappeuse, il y a Népal.
Ouais.
C'était marrant de le rencontrer parce que personne sait qui c'est et tout, donc du coup je pourrais pas te dire non plus, mais on a pu échanger avec lui, c'était mortel. Il y en a un bon bec,
Et
il y en
toi,
a un
tu veux
bon
faire des
paquet.
clips pour des rappeurs ou pas?
Bah en fait disons qu'après l'épisode d'Amso, donc les clips qui sortent pas et tout, c'était un coup dur et c'était une énergie monstrueuse sur des mois et des mois pour bon déjà pas gagner une seule thune évidemment, mais ça c'est le lot du clip. Mais en plus que les projets sortent pas, tu sais, ça te sape un peu ton entrain en fait pour faire ces trucs-là, donc j'ai pas refait de clip depuis.
Moi, je pensais que c'était une volonté de la part de Damso de ne pas sortir de clip. Je pensais que c'était dans sa stratégie de communication et
Il a
qu'il voulait pas
sorti des
faire.
clips, hein.
Bah,
Il a
mais
sorti des clips
d'en
pour cet
sortir
album.
peu, en tout cas.
Ah ouais, non, mais après il a fait des super clips. Ceux qu'ils ont fait à la place du nôtre est 10 fois moins bien que le nôtre, clairement. Enfin, tu regardes Noize the New Black sur YouTube, c'est horrible. C'est James Cameron, le gars qui réalise ça, c'est un mec. C'est un Chris Macaribis, tu vois, enfin, c'est vraiment très nul. Alors que après, il a fait Macarena, on dirait une pub de parfum, très léché. Bon, on n'aime pas, mais c'est quand même bien. Et il a fait un autre clip, c'était. Je sais plus sur quel titre, mais avec Sacha Vierny en directeur photo, c'est sublime, quoi. Il a fait des clips. des choses vraiment très très intéressantes. Donc moi j'aime beaucoup l'artiste, on a eu une super c'était une super rencontre, c'est quelqu'un d'hyper humain, le tournage avec lui c'était mortel, on s'est pris une énorme cuite là-bas ensemble, c'était trop bien. Mais après les problèmes c'est avec les maisons de disques, les labels, tous
Mais
les gens.
c'était où avec
Les
Damso?
problèmes c'est les gens autour.
Tu
C'était où
viens de me dire, on s'est pris une cuite avec
Ah
Damso.
ouais, en Pologne quand on a tourné les clips quoi.
Ok.
En fait, quand tu sais que s'il y a un morceau que t'adores, un artiste que t'adores, genre Damso, là, sur lequel tu peux passer 3 mois et que le truc sort pas, tu comprends que les prochains trucs, t'as intérêt à adorer le type, adorer le morceau, parce que ça peut mal se passer, ça peut ne pas sortir, ça peut. Donc, faut avoir les reins solides, en fait, tu vois. Je pense que tout le monde a envie de faire du clip à un moment donné, parce que t'as envie d'essayer plein de choses techniques, de caméra, des effets, etc. Mais pareil, ça m'intéresse moins, j'ai envie de raconter une histoire et ça passe par d'autres choses quoi.
Donc là, tu es en train de dire que souvent le clip, ça manque un peu de sens et c'est une bonne école pour tester plein de techniques,
Ouais,
de
moi
faire des effets visuels de ouf et
ouais, c'est
tout.
ça. Moi je dirais fais des clips pour tester des procédés, pour tester tu vois développer ta DA, ton goût pour pour la déco, les objets, tout ce que tu veux, etc. Avant, je disais, ouais, moi j'adore les clips où il y a de la narration, j'adore les trucs où on raconte une histoire, mais en fait, j'en reviens vachement parce que un clip, c'est, faut juste pas oublier, c'est un outil promotionnel. Tu vends l'image d'un artiste à travers un morceau, et en vrai, les bons clips, il y en a très très peu qui sont narratifs, mais vraiment très peu. C'est ultra casse-gueule de faire un clip narratif, vraiment. Très souvent, ça plante. Il vaut mieux, enfin, moi en tout cas, si je refaisais un clip, je me concentrerai sur plusieurs tableaux, tu vois, avec une direction artistique vraiment poussée. Je me concentrerai sur des visuels forts, tu vois, avec pourquoi pas la narration, elle peut passer à travers des symboles que tu mets dans l'image, à travers.
C'est-à-dire, tu ferais un peu. Romain Gavras, il dit pas mal ça. Il dit qu'il aime bien avoir des plans qui sont très.
Évocateurs, tu vois.
Ouais, qui sont très
Mais
forts. Et après,
voilà.
tu te bases sur quelques plans forts pour construire un
Voilà.
truc.
Bah, je pense que c'est la meilleure façon. Bah, il est hyper fort en clip. C'est là où il est très très bon. En fait, c'est est-ce que tu as la capacité à créer des visuels qui vont inspirer les gens quand il suffit d'un plan, tu vois, qui va raconter quelque chose sans que tu aies une narration sur tout le clip qui soit vraiment évidente, tu vois. Genre, il faut installer un climat, une atmosphère qui correspond à l'artiste. C'est l'extension de son expression et voilà.
Est-ce que tu as vu le dernier clip de PNL?
Ouais, j'ai vu le dernier clip de PNL, j'en avais entendu beaucoup parler pendant la phase de production.
Ok.
Parce qu'ils sont venus voir toutes les boîtes de prod de Paris en disant qui veut produire notre clip? Et donc j'en ai entendu via différentes personnes qui bossent dans différentes boîtes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà que le résultat est ambitieux, ce qu'ils voulaient faire avant était, enfin sur le storyboard, était 10 fois plus ambitieux encore.
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais.
Mais c'est ce que je dis à certains de mes potes. Je leur dis PNL, ils sont tellement chauds et tellement organisés qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que le haut de l'iceberg, derrière, ils savent ce qu'ils font.
Non mais c'était hallucinant. J'ai survolé une fois leur storyboard. Je te mens pas, il y avait 100 pages. Franchement, on aurait dit un trailer pour James Bond, quoi. Il y avait des trucs, des cascades, des machins. Le truc, mais il aurait coûté une fortune s'il avait. Déjà que ça coûtait cher, je pense. Mais non.
Je crois que c'était 280 000, il me semble.
Ah ouais? C'est monstrueux pour un clip en France, tu vois. Enfin, le budget moyen d'un clip, c'est entre 15 et 30 000 euros, donc. 280 000, tu vois, Céline Dion, récemment, mais elle a fait un clip à 100 000 euros, donc tu vois.
Ouais. Et là, ils ont eu une aide du CNC apparemment, mais.
Dans tous les cas, c'est énorme. Même, je sais pas, Maître Gims, ça doit être dans les 100, 150 quand il fait des clips. Tu vois, parce que je te dis Maître Gims, parce qu'il pèse hyper lourd, tu vois, dans les ventes de disques et tout.
Ah bah ouais, clairement. Mais moi, je t'avoue que je connais pas trop les prix des budgets des clips, donc c'est
Bah,
intéressant.
les clips, je te dis, un clip signé en label et tout, enfin un artiste signé, etc., même dans une maison de disques assez grosse, un bon budget, ça commence à être à partir de 30. Un budget pas ouf, mais où tu peux faire des trucs, c'est 15. Et après, les petits budgets, genre des gens en indé ou dans des petits labels, c'est 5. Bah, de 0 à 10, quoi, tu vois. Après, tout dépend de la configuration à laquelle tu l'as fait, parce que tu fais le clip. Si tu fais un budget de clip t'as 15 000 euros et que tu le fais avec une grosse boîte de prod, ça devient 0 euros, j'exagère, mais tu payes tout le monde, tu déclares tout le monde, tu fais des heures de tournage plutôt réglementaires. Alors que si t'es une micro boîte de prod, 15 000 euros, c'est beaucoup. Mais tu peux aussi vite te perdre. Parce que tu vois, les toutes petites boîtes de prod, par exemple, qui viennent se lancer, elles vont prendre les 15 000 euros, personne va se payer dessus, personne va être payé dans les équipes, ils dépensent tout en location, en matos, etc. Une boîte de prod installée, elle va quand même faire une mini marge, ou alors pas de marge, mais quand même à peu près payer les gens, et encore. Elle va prendre un petit peu moins de risques, quoi.
Toi, tu t'es fait connaître en partie avec la vidéo Paris on t'aime aussi.
Ouais.
Donc, pour rappeler vite fait le concept, parce que je pense que tu en as déjà pas mal parlé à d'autres endroits. Donc, il y a donc Anne Hidalgo a propulsé une vidéo donc, qui présentait un peu la ville de Paris et qui était très dans les clichés avec les grands monuments de Paris et c'était un peu
Ouais,
irréaliste. Et
ouais.
donc, toi, tu as décidé avec ton pote de prendre 3 jours de tournage pour faire. Pour montrer ta vision de Paris, du vrai Parisien, voilà. Et ça, tu l'as fait avec des moyens ou sans moyens?
Alors celle-là, je l'ai fait avec Max, du coup, à l'époque. On l'a fait, ça nous a coûté 200 euros en tout. On a loué des optiques, parce qu'on voulait certaines optiques, qui sont... Alors, je vais faire de la pub pour un petit loueur que j'aime bien, parce qu'ils ont ces optiques et ils sont assez sympas. C'est chez Puzzle Vidéo. Ils ont des optiques qui s'appellent Dogshit. Et en fait, c'est des vieilles optiques vintage, recarrossées, et qui ont un look... On dirait presque de l'anamorphique alors que ça n'en est pas. C'est très doux et du coup quand tu mets ça, nous on avait filmé en A7R 2 qui est très très net, ben, quand tu mets ces optiques-là, t'as un rendu très très doux et ça se rapproche d'une Alexa en fait. Donc ouais, 200 euros, en gros c'était ça et puis peut-être payer quelques cafés à des gens et puis après on a tout fait à pied en mode à l'arrache quoi. On a fait le montage nous-mêmes, la musique c'est un pote qui nous l'a faite. Donc ça nous a coûté zéro et ça nous a rapporté beaucoup entre guillemets. Indirectement en business, puisque ben, tout le monde l'a vu.
Ouais, en business, en notoriété, enfin, ça fait plaisir aussi de savoir qu'il y a plein de gens qui l'ont vu et qui ont kiffé.
Voilà, ça c'est toujours cool. En plus, il y a eu un retour ouais, sur les réseaux sociaux. C'était, on a halluciné 2 heures après qu'on poste la vidéo et on voit Anne Hidalgo à liker la vidéo. On était là, mais what? Qu'est-ce qui se passe? On allait déjeuner volontairement. On s'est dit, on sait pas ce qui va se passer, donc on laisse l'hôtel. À la maison et genre on va déjeuner et quand on revient c'était la folie quoi. Bon, on avait fait un partenariat avec Combini donc c'est ça qui a lancé la vidéo.
Ah ouais,
En
d'accord,
fait
comment t'as fait?
on les a contactés, en fait ils avaient fait... Moi je vois la vidéo de Paris, comme les gens en commentaire le disent sur la vidéo de Paris, je trouve ça abusé, un peu foutage de gueule et tout. Combini sort un article qui démonte la vidéo et avant ça... Juste avant qu'ils sortent l'article, je déj avec Max justement et on parle de la vidéo et on se dit putain, ce serait marrant de faire une vidéo de réponse. On se dit ok, on le fait et là on voit que Combini sort l'article. Du coup, on se dit bah, ok, bah, on contacte Combini en disant bah, on prépare une réponse citoyenne entre guillemets, tu vois. Enfin, je veux pas, c'est pas politique, mais genre une
C'est trop
réponse.
stylé, j'aime bien, c'est marrant parce qu'il y a un esprit, tu sais, pirate.
Ouais, de ouf! On s'est dit mais attends, ça nous donne une excuse pour, entre guillemets, pour filmer Paris, tu vois. Et en fait, dès le début, on s'est dit, si on fait cette vidéo, ça va être cool de faire parler de la vidéo parce qu'la promo, elle est sympa, tu vois. C'est genre, on répond à la mairie, on donne notre version de Paris. On pensait, en faisant la vidéo, qu'il y aurait une écoute, tu vois, quand on
Ouais.
allait sortir. Après, jamais on aurait pensé que ça serait, tu vois, autant de vues et tout ça. Et
Là, elle est
de...
à combien de vues, tu penses?
Je sais pas, 1 300 000 ou quoi, un truc comme ça. Mais surtout, c'était le nombre de partages, enfin, c'était vraiment le nombre de partages sur les réseaux sociaux et tout, c'était ça qui nous avait un peu marqué. Et surtout, tu sais, les retours presse, en fait, et médias, parce que nous, on a envoyé ça à 2 3 journaux, je pense, mais on a été dans tous les médias, sauf France 2 et Arte, je crois. C'était, enfin, abusé,
Mais
tu
attends,
vois?
comment ça s'est passé? Comment t'en es arrivé là? Comment les médias se sont emparés
Ben,
du...
tu sais, quand sur les réseaux, tout le monde partage, les médias s'en emparent sans même te contacter. Après, nous, on avait fait en plus une lettre ouverte, enfin, en description de la vidéo sur Facebook, on avait fait une lettre à Hidalgo, qu'un ami journaliste, d'ailleurs qui bosse chez Brut maintenant, chez Brut Vidéo, nous avait aidé à écrire, donc un peu sous forme de poème. Hugo nous a aidé, le truc est sorti, et donc en fait, vu qu'il y avait cette lettre ouverte, les médias avaient toute la matière pour écrire des articles sans nous appeler. Donc en fait, il y a quasiment, je sais pas, il y a 5-6 médias qui nous ont appelés, mais sinon il n'y en a aucun. Tous les autres ont fait leurs articles tout seuls, ils avaient assez, tu vois. On leur avait donné la matière un peu.
Ce qui est le plus cool, je pense, c'est finalement que t'es décidé de passer 3 jours à filmer Paris. Comment, enfin, tu t'es organisé, t'es allé au
On a
hasard dans
bien,
les rues,
non, non, on
t'es.
a bien planifié. En fait, on s'est dit, voilà, ce qu'elle présente, cette vidéo de la mairie, c'est pas notre Paris. Qu'est-ce que c'est notre Paris? On a fait un brainstorm, quoi. On s'est dit, ok, quels sont nos endroits préférés et pourquoi? Après, on a essayé de thématiser un peu. C'est les endroits pour sortir, c'est les endroits pour la culture, c'est les endroits juste architecturaux. Après, on s'est dit, ok, on va pas. Au final, ça se résumait pas mal au nord-est. Donc, on s'est dit, comment. On a essayé de cadrer Paris. Quand même, de filmer au sud et tout. Au final, dans la vidéo, beaucoup de gens nous ont dit, ouais, il n'y a que le nord et tout. Mais en fait, on a filmé dans tout Paris, mais les images les plus vivantes, elles sont au nord. Et c'est juste la réalité. C'est-à-dire que, ouais, on a essayé de filmer des trucs dans le 14e, des choses qu'on connaissait, mais il y a très peu de choses. Le 15e, il se passe pas grand-chose. Et la vie, en fait, nous, on montre la vie dans les rues. Et la vie dans les rues, elle est au nord.
Mais la vidéo est hyper vivante et très, enfin, très humaine et
Mais il s'est passé des trucs de ouf. Regarde, tu vois, il y a un moment, il y a un mec qui pêche un poisson gigantesque là.
c'est fou cette
Bah,
histoire.
ça, c'est en bas de chez Max. Max, il habite quai de la Marne. On se fait une pause chez lui, on fait une sieste, on était crevés, on faisait tout à pied. Et pile au moment où on sort de chez lui, il y a 50 personnes devant le canal parce que le gars, il est en transpi avec sa canne à pêche en train de pas arriver à remonter le poisson. Et on voit des gens qui vont dans l'eau pour sortir le poisson, quoi. Et alors, ça, c'est des trucs, c'est coup de chance, tu vois.
Il y a eu d'autres rencontres comme ça,
Ouais,
des
en fait, il y a
aventures?
eu plein de rencontres avec des Parisiens. Ils nous voyaient en train de filmer. Et nous, on était vachement, vachement détendus. Tu vois, quand on filmait, on essayait de se mettre à la fois en Parisien, à la fois en spectateur, en touriste presque. Voilà, comment on pourrait filmer cette ville? Et du coup, les gens voyaient qu'on était dans cette énergie-là. Donc, ils nous voyaient filmer, ils venaient nous parler, des jeunes, des vieux. Et des Parisiens, hein, c'était pas des touristes. Et du coup, bah, les gens étaient hyper sympas. Et donc, ça nous a. Même nous, en voulant faire un portrait de la ville, de la ville qu'on aime, on l'a encore plus aimé après, parce qu'on s'est dit, en fait, les gens qui tirent la gueule, c'est nous. Et que du coup, quand tu leur parles, tu te rends compte que ils sont pas moins sympas qu'ailleurs. Et que c'est juste un masque qu'on porte, parce que voilà, la ville, elle est bruyante, il y a des voitures partout, c'est très agressif, donc on se ferme, tu vois. Mais dès que tu casses un peu ce truc-là, les gens sont sympas. Si t'as une idée très très simple à énoncer, en fait, genre on va faire une vidéo qui répond à celle de la mairie de Paris et faire notre vision de Paris, c'est très facile de la tourner, très facile de la monter. Ça nous a pris très peu de temps, genre je sais pas, 2 jours, tu
À monter?
vois. Ouais.
Ah, moi quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, ouais, ils ont dû galérer à faire le montage.
Non, c'était pas long parce que.
Attends, parce que pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo là et qui écoutent, la vidéo elle est hyper rythmée, ça change de plan toutes les secondes, ce qui
Si
change.
t'as une idée simple, ça se monte vite, quoi.
De toute façon, parce que vous l'avez monté tout de suite après, vous aviez encore les moments clés en tête, il fallait
Ouais,
montrer.
on a bourriné parce qu'on s'est dit, ok, la vidéo de Paris vient de sortir, le temps qu'on tourne, il s'est écoulé une semaine parce qu'on a fait 2-3 jours de préparation, de repérage et tout. On a tourné pendant 3 jours et puis après, je te dis, peut-être 3 jours de montage, plus un peu de musique. En tout, ça nous a pris une semaine de post-prod parce que beaucoup d'allers-retours pour la musique. Puis elle est à l'eau, mais ça c'était rapide aussi.
Qui a fait le montage, c'est toi ou c'est
On l'a
Max?
fait tous les deux.
Et ça veut dire quoi tous les deux
Ben, on est ensemble au dérush, on est ensemble au montage. On a toujours fonctionné comme ça.
Bah attends, je comprends pas. Vous êtes tous les deux derrière l'ordi, il y en a un
Ouais.
qui.
Ce qui est assez curieux comme ça, parce que c'est vrai que je fais plus. Enfin, j'ai jamais refait comme ça. Moi, j'aime bien, même par exemple, si c'est moi qui monte, je dérush et je fais au moins un ours ou une V1, et après la personne à qui je collabore vient voir et elle a un regard frais. Ce qu'on a fait sur Blessure, tu vois, on avait le monteur, j'étais avec lui, mais Antonin venait après.
Ouais.
Voilà, voir le montage parce que moi ça fait un recul. Là, je sais pas, on a pas fait comme ça, quoi.
Juste blessure, pour le rappel, c'est le court-métrage que tu as fait avec
Ouais,
Antonin
ouais.
Archer et avec lequel tu as gagné le grand prix du festival du Nikan
C'est ça.
Festival.
Et là, du coup, c'est ça aussi, ça fait pile un an. C'était il y a pile un an, le
Bah oui,
festival
vu que
Nikon.
c'est ce soir là
La
le.
fin de Caméflex. En fait, Caméflex, j'ai eu Emmanuelle Berco via le festival Nikon parce qu'elle était présidente du jury. Donc, je l'ai recontacté après en lui disant, j'ai un podcast, est-ce que vous voulez venir? Et donc, c'était vraiment la fin d'un truc et le début d'autre chose, quoi.
Je dédie peu de temps à des projets perso, mais toi, tu as fait pas mal de courts-métrages, tu as fait des clips, et tu as fait de la pub. Et du coup, moi, je me demande comment tu as fait pour intégrer ces milieux qui me paraissent à moi fermés.
Eh ben, en fait, t'as la réponse dans ta question, c'est faire des projets perso. Enfin, tu peux accéder à la pub en faisant du corpo et du brand content et tout. Mais à mon avis, le risque d'accéder par ce biais-là, c'est que les gens vont t'appeler pour ce que t'as fait en corpo. Et très souvent, ce qu'on fait en corpo, ça ressemble pas à ce qu'on voudrait faire. C'est plus alimentaire. Mais en tout cas, ouais, ça serait faire le maximum de projets perso. Et en fait, si des boîtes de pub commencent à t'appeler en disant, j'ai vu ton film perso et ça m'a plu, ben du coup tu vas t'engager dans un créneau de pub qui te ressemble, tu vois.
Ah, mais si tu fais un court-métrage avec des potes et que tu le publies sur YouTube, quelle est la probabilité qu'une boîte de prod tombe sur ton projet, quoi?
Si tu veux accéder à la pub, pour moi le meilleur moyen c'est vraiment de faire des vidéos concept avec une idée, quoi. Là, ce qui avait marché, c'est qu'on a rebondi sur une actualité hyper chaude. Faut que ça te touche par contre, tu vois. Par exemple, si tu prends un sujet, imaginons, je te dis un truc, tu vois le combat des gilets jaunes. À la base, t'en as rien à branler des gilets jaunes et tu fais une vidéo. Ta vidéo, elle va pas marcher, je pense. Parce que tu vas essayer de réagir de façon opportuniste mais sans conviction. Nous, quand on a fait Paris, là, vraiment, on aime Paris et c'était hyper, hyper sincère, quoi. En fait, il faut être alerte de tout ce qui se passe autour de toi. Et quand il y a un truc qui te tracasse ou qui te rend joyeux ou triste, tu dis ok, ça c'est un sujet pour ma vidéo. Enfin, tu vois, quand je te dis projet perso, même en fiction, maintenant c'est mon seul guide pour me dire est-ce que ce projet perso, je vais le faire ou pas. Je traite que de sujets qui m'angoissent, qui me font peur, qui me rendent joyeux, qui me révoltent. Voilà, enfin, c'est des choses qui ont à faire avec mes sensations, tu vois.
Ok, ah ouais.
Voilà, blessure, l'idée de base donc d'une fille qui tombe dans une parano dans le métro en voyant un mec arriver avec un gros paquet cadeau et qui pense que c'est une bombe. L'idée de base, c'est Anto qui arrive avec chez moi et qui me raconte ça. Le thème c'était le cadeau du concours. Imagine un mec rentre avec un cadeau en métro et les gens flippent. Bah, j'achète direct en fait cette idée parce que moi je l'ai vécu plein de fois et ça fait appel à mes angoisses. Et donc, ça a été mon seul critère. Genre, est-ce que c'est un truc qui me remue quand j'en parle, tu vois? Et ouais, du coup, cerner quelles sont tes peurs, tes angoisses ou les choses qui te fascinent aussi. Moi, j'aime bien aussi un autre truc, tu vois, c'est à la fois angoisse et deux choses. J'aime bien les sujets qui me crispent un peu. Et j'aime bien aussi les sujets qui me questionnent où j'ai pas la réponse, tu vois. Genre, des fonctionnements, des mécanismes humains où je me dis. Je comprends pas pourquoi les gens réagissent comme ça. Non pas que je juge ce qu'ils font. Et du coup, c'est intéressant aussi d'explorer ça. Tu vois? À
Ouais,
travers une
clair.
vidéo, en fait, tu vas explorer quelque chose dont t'as pas la réponse. Ça, c'est vraiment mon guide. Par exemple, le projet de court-métrage que j'ai là, les questions auxquelles fait face mon personnage, je me mets à sa place et je sais pas en fait, tu vois. Mon personnage va réagir en fonction des situations, un peu comme dans Blessure, une situation difficile. Il va y avoir des dilemmes et tout. Mais la question de est-ce qu'il réagit bien ou pas, je n'ai pas la réponse. Ça va peut-être choquer les gens ou quoi, mais je me place pas de ce côté, quoi.
Franchement, c'est hyper intéressant d'exploiter en fait ces angoisses, ces peurs pour s'inspirer, pouvoir poser des questions, pas que donner des réponses. Parce que souvent, on se dit, moi, je suis réalisateur, je veux proposer ma vision. Mais en fait, ta vision, c'est pas forcément une vision, ça peut être juste une
Exactement.
non-vision en fait de quelque
Ouais,
chose.
tu verras les prochains films là que tu regardes. T'as vraiment deux catégories de films. T'as les films où le réal justement veut montrer qu'il sait des choses et la fin c'est badaboum quoi, et il se passe ça et c'est un peu un exposé. Ça peut être très efficace, mais moi ça m'excite pas trop de regarder un film comme ça. Je préfère les films qui m'ont ouvert le champ des possibles à la fin, tu vois. Des questionnements que j'avais jamais eus qui surgissent à la fin du film où je me dis putain, avec cette fin là, une partie du monde que je connaissais s'écroule et une nouvelle s'ouvre, tu vois. Par exemple, un truc, Sherazade, meilleur premier film de cette année au César,
Ouais.
c'est l'histoire d'un mec délinquant à Marseille qui tombe amoureuse d'une prostituée. Hyper intéressant, t'as un personnage d'un mec de 19 ans qui tombe amoureuse d'une prostituée, qui a une relation avec sa mère qui est hyper spécifique, et du coup tu découvres un personnage hyper contradictoire, par exemple. Ça m'a fait vachement réfléchir sur la considération que peuvent avoir les jeunes hommes de banlieue pour les femmes. Et comment elle peut évoluer, tu vois. Je sais pas. C'est dur à expliquer parce que c'est pas encore clair dans ma tête. Mais en gros, pour moi, un bon film, il remet en cause des images un peu figées que j'ai sur les gens ou sur la vie, et ça m'ouvre la tête, quoi. Après, pour trouver des idées de projets perso, ce que je te disais, il y a à la fois, ben, soit rester alerte de l'actualité et voir ce qui te remue, qu'est-ce qui te fait vraiment réagir. Après, l'autre truc que j'ai fait une fois, mais que je referais, tu te poses une après-midi. Je suis allé à, tu sais, à Joinville, il y a des quais. C'est hyper beau, t'as des saules pleureurs et tout, c'est hyper poétique. Je me suis posé dans un café au bord de l'eau et je suis parti sans téléphone portable. Chose, j'ai passé une après-midi sans téléphone, tu vois. Truc de ouf, en fait. Une après-midi sans téléphone, un carnet, un stylo. Et je suis parti en tête en me disant, je reviens, je rentre pas chez moi tant que j'ai pas une idée de fiction. Et donc je me pose au café et pendant 1 heure et demie, je fais rien. Je regarde l'eau passer et je suis presque, tu sais, je me laisse presque hypnotiser par le cours d'eau. Je suis là, je fais rien, quoi. Genre, je grippe, je fais rien. Et en fait, c'est la première fois de ma vie que je faisais le vide sans téléphone. Et donc, en fait, tu laisses, t'as plein de pensées parasites, bah, comme la méditation, tu vois, toutes les pensées qui te traversent l'esprit, tu les laisses passer, tu juges pas. Alors, tu penses à ton planning, tu penses à tous les trucs que t'as pas fait, etc. Puis, au bout d'un moment, ça s'en va, et puis tu penses plus à rien, t'es dans un état un peu bizarre, et là t'as des sujets qui arrivent, et là c'est magique. Et là j'ai eu un sujet, je commence à noter la phrase, et je rentre chez moi, et l'idée que j'avais eue, c'est l'idée de mon court-métrage maintenant qui fait 20 minutes, quoi.
Est-ce que si tu l'as pas refait, c'est pas parce que t'as peur que la magie n'opère plus la deuxième fois que tu le fais?
Ouais, au pire, je pense qu'il faut pas se juger si ça arrive pas. Là c'était juste génial que ça arrive la première fois. J'ai toujours pensé que j'étais pas du tout créatif, en fait. Je suis vraiment parti là-bas en me disant, il faut que tu testes ça. Pas créatif dans l'aspect fiction, tu vois, genre, je sais pas, imaginer une histoire, quoi. Et bah, au bout de 2 heures, je suis reparti avec une idée, tu vois. Et je pense que ça n'a rien d'exceptionnel, c'est juste qu'on n'est plus du tout habitué à faire le vide.
Mais quand on est dans la vie qu'on mène, en plus à Paris, tu vois, on est hyper actif, etc. On a nos projets perso, nos projets pro, nos
Ouais.
potes, notre famille,
Ah
machin,
bah
ça
ouais.
va super vite, ça
Ça va
s'arrête
hyper
jamais.
vite. Ce que très peu de gens font. Et là où n'importe qui peut se démarquer, c'est en fait tu coupes les réseaux et les trucs récents qui sortent parce que tout le monde fait la même chose. Et tu te rends compte qu'il y a t'as 100 ans de cinéma derrière toi dans lesquels tu vas faire tes moodboards, faire des captures d'écran, et ça aura une valeur inestimable par rapport à tous les gens qui regardent que des clips et des pubs. T'as des millénaires de littérature, de poésie. Des centaines d'années et des centaines d'années de peinture, tu vois, des musées à faire, tu vois.
Ouais, il y a plein de sources d'inspiration. Après, c'est
Ouais.
pas. Je pense que les sources d'inspiration doivent pas forcément venir des films. Je pense que tu peux
Non,
faire des
justement,
films
tu
sans en
peux.
regarder, tu vois.
Ah ouais, carrément. J'avais beaucoup tendance à penser que on se nourrit des choses de façon directe, c'est-à-dire tu regardes plein de vidéos, plein de clips, plein de pubs, et puis tu intègres, tu intègres, tu intègres, tu digères. Tu regardes ça le matin pendant 1 heure et puis boum, après tu vas prendre une super note d'intention. Mais en fait, ça marche pas du tout comme ça. Ton inspiration, elle vient d'une balade que t'as fait dehors, elle vient d'un truc improbable, d'un moment où t'as buggé.
Ouais, mais tu
Et
vois,
puis ça ressort après au bon moment. Mais en fait, on peut pas calculer, on peut pas maîtriser ce qui nous inspire. Il faut juste essayer d'explorer là où les autres ne vont pas, quoi. Je consacre du temps maintenant à l'oisiveté, tu vois. C'est-à-dire, je consacre du temps à l'ennui. Je consacre du temps à rien faire. Je consacre du temps à aller marcher dehors. Parce qu'en fait, on est ultra saturé d'infos. Et moi le premier. Hein. Et j'essaye de désaturer mon cerveau, tu vois. Parce qu'on est avec les réseaux et tout ça, on est en état d'hypnose permanent.
c'est
Et
clair.
on produit de la merde enfin, constamment. Je veux dire, dans le sens, quand je te dis on produit de la merde, c'est-à-dire qu'on va écrire la même note d'intention que tout le monde, etc. Moi le premier. Hein. Vraiment, je suis le premier concerné. Et donc, pour se détacher de ça, il faut être improductif parfois. Il faut.
Faut savoir aussi couper toutes les sources de distraction et trier les choses par ordre d'importance. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, en réalité, j'ai 10 000 trucs à faire et c'est sans fin. Mais comme je savais que tu venais, j'ai décidé de me consacrer que à ce podcast et j'ai même pas ouvert ma boîte mail, alors que si je la regarde, j'ai 10 000 trucs à faire,
Bien
tu vois.
sûr, les gens qui vont se démarquer demain. C'est les gens qui vont arriver à focaliser leur attention sur une seule chose. Et c'est hyper dur en vrai.
Et c'est quoi la prochaine chose que tu veux faire, ton prochain objectif?
Le plus important et celui dans lequel je vais m'impliquer le plus, c'est mon court-métrage.
T'en es où par rapport à ce projet?
Il est en cours de financement, j'ai mon chef op et on va faire des repérages samedi là.
Toi et moi, on a commencé en filmant et en montant, en faisant tout nous-mêmes.
Ouais.
Et là, petit à petit, le chemin logique, c'est de se diriger vers la réal. Mais au final, la réal, t'as plus la caméra en main, t'as plus vraiment la main sur le montage. T'as juste une vision globale et t'essayes d'orchestrer
Ouais,
toute
c'est
la
plus
vidéo.
ça. C'est vrai que t'as plus une posture de chef d'équipe, mais au final, t'as la main sur tout, en fait. C'est-à-dire que oui, t'as plus la caméra physiquement dans les mains. En revanche, c'est toi qui orchestres l'ensemble, donc c'est beaucoup plus de responsabilité qu'avant. Mais pour autant, oui, les projets pubs, ils sont comme ça, mais je fais plein de projets tout seul avec ma caméra, en fait. Tu vois, genre là, j'ai acheté la semaine dernière une caméra DV par exemple. Ça me fait trop kiffer. Je filme sur cassette des trucs et je m'éclate, tu vois. Et comme avant en fait, je fais le montage. Voilà. Ça, il faut pas. Parce que tu vois, ça pareil, à un moment où ça m'a. Enfin. Disons, la croissance de mes projets, le volume et l'ambition des projets allait hyper hyper vite, a augmenté d'un coup. Et du coup, d'un coup, j'ai dénigré le fait de tout faire. Ben, je me suis dit, c'est avant, c'est un truc de débutant. Et en fait, ben, j'en suis revenu parce que y a plein de bons côtés à faire les choses tout seul aussi, quoi. Et les deux sont trop bien, en fait. C'est juste que progressivement, se spécialiser vraiment en réal pur, c'est un choix. D'être meilleur dans un seul domaine et que t'as, au bout d'un moment il faut se focus sur quelque chose. Moi, c'est la direction d'acteur. Avant, je pensais que je voulais être chef op. Bah, en fait, quand on m'a dit non, non, mais ce tournage-là, tu seras pas les deux, tu seras juste réal et que j'ai eu plus que ça à faire, j'ai tellement kiffé la direction d'acteur que j'ai compris ce jour-là que ça serait mon métier. En tout cas, ça serait ma direction, ça serait vraiment ce que je veux faire. Et voilà.
Quand tu fais tout seul avec ta caméra, tournage, montage, gestion des acteurs ou des clients, tout ça, c'est difficile d'être dans l'instant présent parce que tu as 1 000 trucs à gérer en même temps. Et du coup, je trouve que ça bride un peu ta créativité et aussi le relationnel que tu as avec les autres. Et là, le fait de se spécialiser dans la direction d'acteur et d'être réalisateur, ça te permet de t'exprimer
Ouais,
plus librement
ouais, ouais.
comme ça.
C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut se spécialiser au bout d'un moment, parce que tu sens que ça va forcément parasiter tes progrès. Bah, ce qui est fascinant, c'est quand tu fais des projets que en réalisation, bah, t'es encore submergé en fait par des choses. T'as toujours des nouveaux défis. Et tu sais, c'est comme les courbes d'apprentissage. Genre, je sais pas, ça doit te faire ça aussi. Genre, tu commences, bah, t'es nul. Et puis t'avances un peu, tu crois que t'as tout compris à la vie, à la vidéo. Et puis 2 jours après, en fait, tu trouves que t'es une merde. Et puis tu recommences. Et en fait, en direction d'acteur, c'est pareil. Genre, sur un tournage, tu trouves que t'as été catastrophique. Et puis tu lis des trucs, tu te renseignes, tu te trouves génial. Et puis après, 2 jours après, tu dis que t'as rien compris au métier, quoi.
Toi, en tant que réal, tu t'es entouré d'une équipe avec qui tu travailles souvent, genre un chef op, un chef électro.
Non, ça change tout le temps parce que. En fait, au début, c'est vrai que t'as envie de bosser tout le temps avec les mêmes gens et je trouve ça plutôt cool parce que de toute façon, t'as pas accès non plus à n'importe quel chef op parce qu'il coûte cher. Et puis, tu grandis avec les mêmes personnes et tout. Et après, au bout d'un moment, quand tu te spécialises, genre réal, ben, en fait, chaque projet amène à une esthétique et pour tel type d'esthétique, tu vas avoir un chef op qui va être plus intéressant qu'un autre. Et puis, il faut apprendre à bosser avec des gens différents, tu vois. J'ai bossé plusieurs fois avec un chef op anglais, par exemple, Ian Forbes, qui est hyper fort. Et puis je ne l'ai pas rappelé sur d'autres projets parce qu'il convenait moins, tu vois, j'ai pris un autre gars. Et là, pour le chef op de mon cours, ben, c'est un gars qui a une expérience de 30 ans, par exemple, tu vois. Parce que je voulais avoir quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que moi.
Tu vas pouvoir apprendre, c'est une bonne façon d'apprendre aussi.
En fait, au début, j'avais vachement peur de bosser avec des gens plus forts que moi, parce que c'est un peu, tu sais, le syndrome de l'imposteur. Tu dis, mais si j'ai un super chef op ou un super chef déco quoi sur le plateau, il va vite voir que je suis débutant, tu vois. Il va vite voir que je connais pas plein de trucs, tu vois. Même les termes techniques, c'est intimidant et tout. Donc au début, ben, de toute façon, les budgets l'impliquent aussi, mais tu te contentes, ben, des contacts ou de quelqu'un de motivé, même, tu vois. Et les premiers pas sont difficiles d'appeler quelqu'un plus expérimenté parce que t'as peur de te débiner. Et puis en fait, après, tu comprends que quand t'es sur un tournage et que les gens sont payés pour pour venir, ben ils sont là pour toi et à ton écoute. Et si c'est des gens qui font bien leur métier, même si tu as 23, 24 ans, ils vont bosser pour toi. Et quand tu as passé cette étape, c'est juste génial et tu n'as plus qu'une seule envie, c'est de bosser que avec des gens qui sont 10 fois plus forts que toi à tous les domaines. C'est comme ça que tu progresses en fait, tu vois. Genre là, le chef-op, je l'ai vu mardi et je lui ai posé 1 milliard de questions. Je lui ai dit voilà, je veux faire ça, ça et ça, mais j'ai trop peur sur ce point-là, sur ce point-là, sur ce point-là, sur ce point-là, sur ce point-là. Et lui, il me répond avec 30 ans d'expérience, tu vois.
Ouais, et puis sa vision artistique à lui aussi.
Bien sûr, c'est un artiste, c'est un technicien, c'est un geek aussi, dans son cas. Il développe ses optiques lui-même, enfin, il les répare, il fait des systèmes, etc., de cam et tout. Et donc, ouais, à terme, c'est vraiment génial de pouvoir bosser que avec des gens plus forts. On pourrait avoir tendance à croire que, par exemple, le réal est celui qui maîtrise le plus sur un plateau, dans le sens qu'il connaît le plus chaque chose, mais en fait, oui, un réal qui grandit, il connaît bien chaque corps de métier avec qui il travaille, mais surtout, il fait confiance à des gens meilleurs que lui dans chaque domaine. C'est-à-dire que si t'es sur un plateau et que t'es plus fort que ton chef déco en déco, t'as pas pris le bon chef déco, en fait. Et ça arrive, hein. Parfois, t'as un gars avec qui tu bosses, tu fais putain, mais ça m'est arrivé en post-prod, par exemple, au montage ou en étalo, où en fait, je me suis dit, ben non, si... il faut forcément que ce soit meilleur que moi, quoi. C'est un critère, en fait, c'est un critère de sélection, quoi. Il faut qu'il soit meilleur que moi. Si t'as envie de faire un projet avec tes potes qui ont jamais fait de film, mais fais-le, c'est juste génial. Genre, si tu veux partir en vacances et filmer un truc en vacances avec quelqu'un qui a jamais fait de film, il faut évidemment le faire, si vous avez envie de le faire. Mais dans une démarche, on va dire commerciale, où il y a du budget.
Faut pas avoir peur de travailler avec des gens plus expérimentés, même
Voilà.
si toi t'es un peu le gamin du truc.
En gros, si tu peux te le permettre, si le budget le permet, ou si la personne à qui tu demandes est OK pour bosser sur ce budget-là, il faut absolument. Enfin, c'est mieux de bosser avec une personne expérimentée.
C'est comme quand tu as travaillé avec Dali Ben Salah, non? Sur, je sais pas comment ça s'est passé, votre
Je l'ai
relation.
contacté après Territory. J'avais adoré et je lui ai dit ben, j'adore ce que tu as fait, c'est génial, ça m'a hyper touché. Je sais qu'un jour on va faire un truc ensemble. Viens, on prend un café, juste on se rend compte, on discute. Puis quelques mois après, on a fait le. En fait, j'ai commencé l'écriture d'une icône en me disant je veux faire une histoire dans laquelle il y aura Dali, en fait.
Avant de lui avoir demandé?
Non, 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 après
Après.
avoir rencontré Dali, j'ai dit à
Ok.
Antonin, je veux qu'on réfléchisse à une histoire dans laquelle il y aura ce mec-là, parce qu'il est ouf. On voulait qu'il soit dedans, quoi.
L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura inspiré. Si c'est le cas, je vous invite à noter ce podcast et à mettre un avis sur Apple Podcast. Pour ceux qui veulent s'inscrire à du contenu bonus, je vous invite à le faire via le lien dans la description de l'épisode. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 7.